Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios d'Île-de-France en Val d'Oise, en FM sur 98.00, web radio 98.fr, DAB+, et sur notre appli Android. Jacqueline Voraz avec Nicolas à la technique. Bonjour Nicolas. Nous voici en juin et déjà bientôt l'heure de la fin de la saison de l'économie en direct, au cours de laquelle nous avons pu échanger plusieurs fois sur les enjeux et perspectives de la Fédération française du bâtiment dans le Val d'Oise et ses adhérents. Ce matin encore, vendredi 27 juin 2025, découvrons les tendances qui se profilent dans un contexte où globalement, entre les premiers trimestres 2024 et 2025, la production dans le bâtiment n'est pas au beau fixe. Ce qui n'empêche pas la Fédération française du bâtiment du Val d'Oise, à travers toutes ses missions, de continuer à jouer bien sûr son rôle clé dans le secteur. Pour en parler, mes deux interlocuteurs privilégiés, Sébastien Ramé, président de la FFB 95, dirigeant du groupe GTPR. Bonjour Sébastien.
Bonjour Jacqueline.
Bienvenue et merci d'être au rendez-vous pour partager une nouvelle fois votre analyse des problématiques rencontrées et vos objectifs pour y pallier.
Merci de votre invitation.
À vos côtés, William Vinant. Bonjour William.
Bonjour Jacqueline.
Délégué général de la FFB 95, rouage essentiel de cette fédération dont la valeur est aujourd'hui incontestable. Merci à tous les deux d'être les invités en direct et bienvenue sur IDFM Radio.
IDFM 98FM.
Alors au sommaire, nous parlerons des impacts de MaPrimeRénov et les aides à la rénovation, les défis rencontrés par les micro-entreprises, les récentes évolutions concernant le photovoltaïque, les rubans du patrimoine qui mettent en lumière l'excellence artisanale, les initiatives en matière de sécurité routière pour les artisans, APESA et le soutien apporté aux chefs d'entreprise en situation de liquidation de leur entreprise. Et sans oublier, bien sûr, un retour sur votre Assemblée Générale 2025 qui s'est tenue courant mars et qui a mis l'accent sur l'engagement environnemental avec un parallèle inspirant entre les actions locales et la préservation de l'Everest. Voilà, un sommaire bien rempli. Sébastien Ramé, depuis notre dernière venue, beaucoup d'annonces, de contre-annonces assez déstabilisantes dans le monde du bâtiment. Et en même temps, vous connaissant un peu mieux, notamment pour votre appréciation du verre à moitié plein, j'ai hâte de partager avec vous votre vision de cette situation actuelle.
Non, alors la situation actuelle, elle est toujours un peu compliquée. En effet, alors j'ai toujours cet optimisme nécessaire de tous les entrepreneurs que nous sommes et chefs d'entreprise pour continuer à regarder de l'avant et à avancer. Mais c'est vrai que le message reste un peu le même. Ce que nous demandons depuis maintenant de nombreuses années, c'est juste de la stabilité. Mmh. Et la stabilité, force est de constater qu'elle est toujours pas là. Les dernières annonces faites un peu dans la précipitation, sans concertation, en sont le bon exemple. On peut citer MaPrimeRénov, on peut citer les derniers allers-retours sur le photovoltaïque. Ce sont des choses qui fonctionnent, qu'il faut voir comme des investissements dans cette transition écologique, économique et environnementale qu'on essaye de faire sur notre territoire. Ce sont des stratégies d'entreprise que nous mettons en œuvre pour répondre à cette demande, pour améliorer notre habitat et notre façon de vivre. Certes, si on la voit comme un investissement, ça coûte un peu d'argent, mais je pense qu'elle est plutôt vertueuse. Et puis, on a des stop and go parce que, justement, sur des problématiques budgétaires, sur des problématiques de sous. Alors, les sous, c'est le nerf de la guerre, hein, nous sommes bien d'accord, mais c'est vrai que on a vraiment ce qu'on souhaite vraiment, nous, à la Fédération française du bâtiment, que ce soit en local, au niveau régional ou au niveau national. C'est vraiment une stabilité et une vision long terme de ces choses-là. Le bâtiment, c'est du temps long. Mmh. On pourra revenir sur les rubans du patrimoine qui mettent en avant en effet justement des rénovations de belles choses qui existent depuis des années voire des siècles et c'est ça qu'on met en avant dans le bâtiment. On n'est pas là pour faire passer le budget de l'année prochaine, faire la problématique budgétaire des trois prochains mois du prochain gouvernement. Non, on est sur le temps long, on est en train de construire le bâti de demain, l'environnement de nos enfants, de nos petits-enfants. Donc on a besoin de stabilité par rapport à tout ça, sur les règles, sur les façons de faire. Et je pense que nous, on est plutôt dans le long terme. Alors c'est vrai que l'approche budgétaire peut être compliquée, mais il faut vraiment qu'on ait des gouvernants qui nous écoutent et qui répondent aussi à ces attentes de voir loin. On n'est pas sur des problématiques électorales rapide et très
ponctuel.
Non, faut vraiment voir cet aménagement du territoire et cette rénovation du bâti comme quelque chose de global qui nous engage sur les 50 prochaines années, voire plus.
Très bien. Alors avant d'aborder, on va revenir sur la prime rénov, le photovoltaïque, on va y consacrer un peu de temps. Avant d'aborder ces nouvelles préoccupantes, je vous propose de commencer par du positif, à savoir la tenue de votre assemblée générale qui a eu lieu le 27 mars au centre Atlética d'Aubonne. Et une AG pour laquelle vous aviez choisi de faire intervenir Marion Chéniaud-Dupuis. Donc je vous laisse commenter tous les deux cette AG.
Oui, alors c'était un très bon moment. C'est toujours, voilà, on a besoin aussi de ces moments un peu festifs et un peu où on prend un peu de hauteur pour voir un peu autrement les choses, se réunir et s'apercevoir de toute la belle énergie qui peut exister parmi nos adhérents et parmi le monde du bâtiment. Donc en effet... en mars à Atlética, on a fait venir Marion Chéniaud-Dupuis, qui est donc la dirigeante aujourd'hui d'une association qui s'appelle Clean Everest et qui a pour vocation en effet de nettoyer l'Everest. C'est une alpiniste, guide de haute montagne française qui vit aujourd'hui dans l'Himalaya et qui a une vision très écologique justement de ce toit du monde que nous pensons nous inviolé et qui au travers de toutes les vidéos qu'on peut voir aujourd'hui en fait est une vraie zone en effet de dépotoir avec toutes ces expéditions qui montent pour marcher sur le toit du monde. Elle a cette conscience écologique que les déchets sont des vrais problèmes et que là-haut, bah, il n'y a pas d'éboueur, il n'y a pas de décharge, il n'y a rien. Il n'y a pas d'évacuation, il n'y a pas de tout à l'égout, ce qui pour nous aujourd'hui nous semble normal dans notre environnement urbain puisqu'on a quand même aménagé notre territoire pour justement avoir une certaine gestion de nos déchets. Là-bas, il n'y a vraiment rien, donc elle a cette prise de conscience-là, et on faisait le parallèle, en effet, avec nos problématiques de dépôt sauvage de déchets, parce que ça existe quand même sur nos territoires, qui était exactement le même système, c'est-à-dire que c'est à peu de déchets sur des endroits vierges, ça marche bien, et puis c'est assez éliminé de façon naturelle. Quand il y en a trop de monde sur l'Everest, ou trop de dépôts sauvages chez nous, ça devient des dépotoirs, et on abîme notre environnement à nous, qui est notre habitat à tous, et qui nous appartient et qui est de notre responsabilité d'entretenir et de faire attention à ça. Donc on avait plus de 300 personnes, c'était un très bel événement, le retour de notre intervenante était vraiment positif, et puis bah on a mis à disposition son livre qu'elle a écrit justement.
Oui, j'allais vous demander quel résultat.
Bah, le résultat, c'est que alors c'est pas des ventes, c'était des dons, c'est-à-dire qu'on offrait gracieusement le livre et puis les gens faisaient un don à son association et je crois qu'on a récolté plus de 10 000 euros.
Oui, c'est ça. Ouais.
Pour son association, donc en plus quelque chose de plutôt bénéfique et bien pour son association et pour les projets qu'elle défend.
Oui, parce qu'elle elle fait preuve d'une énergie incroyable, hein, parce qu'on est dans un milieu hostile quand même, et elle a réussi à mettre en place toute une organisation pour récupérer ses déchets.
Ouais, je dirais que c'est une femme qui est lumineuse, qu'elle a une aura, une capacité de parler, elle est habitée par les combats qu'elle porte. Et elle est très précise, présente et assez vraiment active sur ce en quoi elle croit. Et c'est bien d'avoir des gens inspirants qui nous emmènent au-delà.
Qui nous tirent,
C'est vrai qu'elle a des convictions.
William Vinant.
Ouais, elle a des convictions absolument, absolument incroyables depuis son plus jeune âge, puisque elle est partie à 15 ans dans les rues de Calcutta en Inde pour aider le père de sa meilleure amie à sauver des gens qui étaient malades et tout. Elle a vécu là-bas à 15 ans. Elle est partie y aller dès ses parents. Je m'en vais. Donc voilà. Elle est revenue ensuite.
Elle a vraiment la fibre.
Une fibre incroyable. Et c'est vrai que quand on l'écoute, quand on l'entend, elle porte quelque chose, alors que finalement, c'est un...
Certains un, disent, petit un petit bout de femme. Femme.
Et c'est vrai, mais en même temps, elle a une telle conviction. Ouais, et je pense que quand vous montez trois fois l'Everest, c'est sûr que cette conviction, vous l'avez en vous, parce que vous ne faites pas ça... C'est pas facile
ah oui, de monter l'Everest.
C'est un vrai engagement moral, physique, psychologique, tout ce que vous voulez. Sachant que sur l'Everest, c'est le taux de retour, c'est 1 pour 5. Enfin, c'est une personne sur 5 va décéder en montant ou en descendant. Voilà, sur 5 personnes.
On a vu ces photos, d'ailleurs.
Ça, c'est
obligatoire.
Et le problème qu'elle a, elle, là-bas, en fait, les problèmes de ces déchets, c'est à partir de la zone de 8000 mètres, qu'ils appellent la zone de la mort, en fait, les gens changent complètement leur paradigme. C'est-à-dire que pour eux, leur seul objectif est d'atteindre l'Everest par tous les moyens. Mmh. Et puis, parce que la descente est plus dangereuse, et de redescendre. Donc, tout ce qui est superflu, tout ce dont ils n'ont plus besoin, ils le laissent.
Ils s'en fichent.
Voilà. Oui. Et même le corps d'une personne qui part en expédition, qui décède là-haut, n'est pas redescendu, forcément. Mmh. Puisque c'est un poids mort et que la priorité, c'est déjà de descendre soi-même. Donc on imagine bien pour des bouteilles d'oxygène ou autre, tout reste là-haut. Donc son challenge à elle, c'est de cette zone des 8000, de faire en sorte de lui retrouver cette pureté, sachant que le massif de l'Everest, ça approvisionne en eau 2 milliards de personnes.
Oui.
Donc on imagine bien la problématique qui peut en sortir. Si demain l'Everest, effectivement, le massif de l'Everest est pollué à des niveaux importants, le risque effectivement que court potentiellement la population mondiale, avec 2 milliards de personnes qui n'auraient plus l'eau potable. On peut imaginer ce que ça peut poser comme question.
Oui, les risques, oui. Voilà. On se demande même d'ailleurs pourquoi il a fallu attendre Marion pour faire ce genre de...
Parce que alors en fait, il y a deux choses.
Les gouvernements auraient pu réagir aussi.
Alors là-bas, ils réagissent en fait, parce que l'Everest, vous avez deux zones. Vous avez la zone où vous accédez par la Chine et la zone où vous accédez par le Népal. La zone où vous accédez par la Chine, c'était très simple à mettre en œuvre pour elle, puisqu'elle s'appuyait sur les autorités chinoises. Les Chinois, vous montez avec 10 kilos, vous redescendez avec 10 kilos.
D'accord.
Sinon, vous n'avez plus de visa, vous n'allez plus en Chine.
Ah oui.
C'est binaire, c'est très rapide, c'est très facile. Le Népal, c'est tout l'inverse. C'est le plus gros... l'Everest, c'est ce qui apporte le plus de devises au pays. Donc forcément,
ils laissent tout faire.
Vous voulez monter avec 20 Sherpas et ne pas avoir un marché, on vous monte avec 20 Sherpas. J'exagère, mais c'est presque ça. Donc son challenge aujourd'hui, le côté chinois, ça fonctionne. Côté Népal, c'est plus compliqué parce qu'il faut faire avec les fourches codines et effectivement, des fois avec certains accords, on va dire tacites ou autres, en local, et c'est là où c'est le plus dur. Voilà.
Ouais. Bon, on pourrait en parler.
Mais le parallèle avec le territoire du Val d'Oise a très bien fonctionné. Les gens nous ont dit effectivement les dépôts sauvages qu'on a sur le Val d'Oise, ça pollue. Des fois sur des zones. Qui peuvent être problématiques, puis ça peut être des zones de captage, des zones en espace naturel sensible, et c'était important de le faire, et en tout état de cause, l'affaire qui pour nous, l'affaire dont on a déjà parlé, l'affaire de Roncrolles, de pollution de Roncrolles, c'est exactement ça, puisque c'est une pollution de longue date sur une zone du PNR, du parc naturel du Vexin, sur une zone ENS du département qui met en avant des zones, effectivement, et c'est très bien, des zones environnementales qui en remet pas en service, mais qui fait en sorte de repermettre l'accès à des zones qui étaient jusque-là pas accessibles. Et ça, c'est très bien pour le grand public. Faut aussi préserver celles qui existent. Donc, les boîtes qui polluent sur ces zones-là, faut les condamner.
Bien sûr. Ah oui. Merci Sébastien, merci William pour cet aparté sur votre AG, mais je trouvais que c'était important d'y revenir. Alors donc, le bâtiment, c'est un secteur qui résiste malgré beaucoup d'annonces. On revient sur MaPrimeRénov. Donc vous l'avez dit Sébastien, un stop and go permanent avec des seuils de revenus, des types de travaux, des procédures, au gré des lois, des décrets, des arrêtés. Au total, une trentaine de réformes et c'est un petit peu illisible alors qu'on parle de milliards d'euros.
C'est exactement ça, le problème de MaPrimeRénov. Alors, j'ai plus le chiffre exact, mais l'ordre de grandeur est celui-là. Je pense que depuis le début du mandat national de notre président Olivier Salleron, je crois qu'on en est à la 15e mouture, sachant que nos mandats durent 6 ans. Donc, ça veut dire plus de 2 moutures par an de MaPrimeRénov. Sur on accélère, on recadre, on réajuste, on remet des choses en place ou pas. Et c'est vrai que cette stabilité, elle est pas là du tout. Le principe reste excellent et il faut vraiment le mettre en avant. On est sur, justement, une aide pour les ménages à rénover son bâtiment, qui peuvent être des passoires thermiques. Et donc, c'est une aide par rapport à ça pour rénover. Mais par contre, c'est vrai que les attributions de ces aides sont conditionnées à énormément de choses. Les gens voient ça comme une complication. L'année dernière, on avait eu un problème parce que avait critiqué sur les trois premiers mois parce qu'il n'y avait pas eu de consommation de cette aide-là.
Ah oui.
Mais en fait, c'était que le système était trop compliqué. On a demandé une simplification urgente. On l'a eu. Ça a démarré. Ça a très, très bien marché. Là, justement, on était reparti sur une ligne budgétaire qui était la même que celle de l'année dernière. On était déjà contents de ça. Hein. La discussion du budget, quand on s'était vu, on n'avait pas de budget, je vous rappelle, Jacqueline.
C'est vrai.
Et donc là, on avait sauvé ce budget qui était que 9 mois de consommation. Hein. Donc, mais déjà, on avait maintenu cette ligne-là au niveau du budget. Et par contre, là, le succès était trop grand quand, en 6 mois, on a déjà tout consommé. Et c'est là où ils nous disent, non, mais on va arrêter parce que on n'a plus les moyens. Et on dit, non, il faut soutenir. Si ça marche, ça prouve que c'est utile. Ça prouve qu'il y a des gens qui en ont besoin. Et c'est plutôt vertueux. Mmh. Donc derrière, c'est en plus des travaux, c'est de la TVA, c'est de l'argent dans l'économie. Donc c'est plutôt en plus un cercle vertueux qui fait que ça fait tourner aussi l'économie. Donc on est aussi au bar de l'économie, donc faire tourner l'économie, on est d'accord et on pousse pour ça. Donc c'est vrai que pour nos adhérents, nos artisans, ce sont du travail, donc c'est vrai qu'on est peut-être pas très objectif par rapport à cette demande-là, mais on pense vraiment que c'est vertueux.
Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de cette prime rénov pour nos auditrices et auditeurs qui peut-être ont des travaux mais ne savent pas s'ils sont éligibles ou pas? Je crois que c'est important.
Alors, rappeler qu'en Val d'Oise, avec le concours du département et d'autres organismes, il y a un guichet qui s'appelle Val d'Oise Rénov, et qui est le guichet de référence en Val d'Oise pour tous les ménages. C'est important de les contacter puisque c'est eux qui, en fonction de votre plafond de ressources, puisque c'est lié au plafond de ressources, vont vous dire, vous pouvez bénéficier de telle ou telle enveloppe, et quelquefois même, selon les communes, alors c'est plus les communes qui en ont la délégation, ce sont la communauté de communes. Selon les communautés de communes, il peut aussi y avoir des abondements aussi. Donc là-dessus, sur le principe de prise en charge, je ne vais pas m'y lancer puisque ça va dépendre du revenu. Par contre, ce qui était convenu aujourd'hui par rapport à les dernières évolutions de ma prime rénov, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui le monogeste, c'est-à-dire vous changez fenêtre ou alors vous changez une pompe à chaleur ou une chaudière, vous faites une isolation, ce qu'on appelle le monogeste, n'est pas impacté par cette réforme. De même que ma prime adapt, qui est l'adaptation aussi des logements pour les personnes qui restent chez elles ou les personnes avec un handicap. Donc ça ne bouge pas. Ce qui effectivement posait problème dans l'état d'esprit du gouvernement, mais là encore, on peut se poser quelques questions puisque les entreprises ne sont malheureusement pas responsables des dérives de certains, de margoulins, de personnes, des margoulins
vrai problème est là, en fait,
qui fraudent. On ne peut pas imposer, ce qui est regrettable et ce qu'on dénonce, c'est que la mission de contrôle, elle s'impose à l'État. Nous, de notre côté, les organisations professionnelles, on a mis en place avec des organismes qualifiés des qualifications, la qualification RGE. Il y a des audits qui doivent être faits, qui sont faits. Derrière, si les personnes ne font pas correctement leur travail, eh bien, on va dire au ministère des Finances, au travers la répression des fraudes, d'intervenir sur ces entreprises. Donc, qui est remis en cause, c'est effectivement la rénovation qui n'est pas monogeste, celle qui est multigeste, puisque celle-ci est liée à un accompagnateur rénov, et tout ce dispositif est en train d'être rediscuté, parce que c'est là où, semble-t-il, on trouve des fraudes plutôt importantes au dire de l'État. Encore une fois, ça nous interpelle. Sébastien a rappelé l'historique 2024. 2024, on nous dit, finalement, vous n'avez pas consommé l'ensemble de l'enveloppe. Oui, l'enveloppe n'a pas été... Donc, on vous l'a réduit d'autant en 2025.
Ouais.
Mais c'est pas qu'on l'a pas consommé. C'est que les trois premiers mois de l'année 2024, ça ne marchait pas. Donc, on peut pas reprendre trois mois qui ne marchaient pas sur les 9 mois restants. Les entreprises peuvent pas démultiplier leur chantier. Donc, on trouve que c'est un peu facile quand même de faire porter le chapeau sur les on va dire les entrepreneurs artisans du bâtiment qui n'ont pas consommé, alors que le guichet ne marchait pas, en l'occurrence le fameux guichet de l'ANA. Donc, là, on nous a dit, on vous met un budget, le budget 2024 rectifié, amputé de 3 mois. Et comme ça marche depuis janvier, bah là, ça fonctionnait. Et maintenant, ah mais non, mais vous êtes trop consommé. Attendez, bah revenir au budget initial. Enfin, là, il y a un peu un jeu de poker menteur quand même qui est plutôt moyen. La vraie question aujourd'hui, c'est vrai, effectivement, il y a des fraudes avec les accompagnateurs Rénov. Malheureusement, comme dans tout système, il y a des personnes qui essaient d'en profiter. Je pense que le fond du problème est aussi là quand même. Il faut effectivement taper fort sur ceux qui fraudent. Oui, d'ailleurs, oui. En Val d'Oise, je tiens à le signaler. Et nous, on a accompagné, on a félicité le préfet. Une entreprise, c'est public, c'était passé dans la presse, entreprise basée à Méry-sur-Oise, a été condamnée pour 300 000 euros de fraude suite à des dossiers qu'elle avait fait, en fait, du phoning qui n'était pas autorisé, des travaux non réalisés qui n'étaient pas utiles chez des personnes, justement, en difficulté. Et elle a eu plus de 300 000 euros d'amende.
Ouais.
Et bon, ça s'est passé sur le réseau de la préfecture, donc
ça
on peut en parler. C'est important de
connaître.
Et nous, on a condamné ce margoulin. Enfin, c'est clair. Ce sont des gens qu'il faut sortir de la profession. Mm-hmm. C'est très clair là-dessus. Ouais. Mais ça, j'ai très très clair de notre part.
Donc là, aujourd'hui, elle est à nouveau en route.
Elle est active pour le moyen geste.
Oui.
Et normalement, le multigeste, on va dire, les autres rénovations d'ampleur ou avec plus que d'une seule activité, nous allons autour du 15 septembre. Mmh. Bon, bah, on va attendre le 15 septembre. Mais il y a des discussions qui sont en cours sur, effectivement, au niveau de l'État et au niveau national de notre fédération et des instances pour, justement, recalibrer les modalités de mise en œuvre, de contrôle des dossiers qui ne sont pas que du monogeste, mais qui mettent en œuvre plusieurs techniques. Voilà. Donc, c'est en cours.
Voilà. Et là-dessus, il faut encore... mettre en avant quand même le combat de notre fédération, c'est-à-dire qu'on a été très surpris par cette annonce gouvernementale sur l'arrêt de MaPrimeRénov' qui devait être arrêté sur l'ensemble du système, hein, y compris les monogestes. On est tout de suite monté au créneau à tous les échelons de notre organisation patronale pour justement dire stop, on arrête. Il y a eu une petite communication avec un carton rouge en disant que là-dessus, on était vraiment, nous, un partenaire avec qui on pouvait discuter, mais il fallait vraiment qu'on discute et qu'on se prévienne mutuellement des ambitions des uns et des autres. Et donc, le gouvernement est tout de suite revenu, en effet, sur une partie de MaPrimeRénov', sur les monogestes, comme vient de le dire William, sur le fait que ce système-là continue et qu'il y avait un moratoire le plus court possible. Mmh. Et cette date-là, en effet, pas sûre, mais nous, on voudrait que ce soit dès la rentrée, même le 1er septembre, on verra ce qu'on gagnera. Mais on est vraiment sur au combat par rapport à ça, à tous les échelons de notre organisation, pour vraiment... c'est pas contrainte, parce que j'aime pas ce terme-là, c'est pareil, enfin, faut être positif, mais c'est vraiment discuter ensemble et négocier pour dire que c'est vraiment un bon système, qu'il est plutôt vertueux et qu'on a besoin, justement, l'État est dans son rôle d'aider ce genre d'initiative et les entreprises, enfin, et l'ensemble du système est dans son rôle d'améliorer le système dans lequel on vit. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel nous on croit et qu'on essaye de démontrer, voilà. Alors après, on affronte en effet des réalités budgétaires, on affronte des réalités économiques qui sont réelles, mais nous on dit que dans les arbitrages, cet arbitrage-là ne doit pas exister. Mm-hmm. On doit aller chercher des économies ailleurs,
absolument.
Pas sur ce type-là qui est vraiment vertueux. Autant il y a des aides sur lesquelles justement on en profite quand on en a, et quand elles disparaissent, on va pas trop se battre en disant que c'était un bénéfice qui nous était attribué, sur lequel on va pas se battre. Mmh. Autant certaines aides, et notamment MaPrimeRénov', on pense que c'est vraiment un bon système.
Oui, il faut l'encourager, absolument.
Et puis, juste un petit point.
William.
MaPrimeRénov', l'objectif de rénover énergétiquement des bâtiments, on n'arrête pas d'en entendre parler, le conflit actuel qui se passe au Moyen-Orient nous le rappelle tous les jours sur l'énergie. La meilleure énergie reste celle qu'on ne consomme pas. Donc, dès lors, on aura des bâtiments qui seront en capacité d'être autonomes et de consommer le minimum d'énergie. Forcément, ce sera positif sur notre balance commerciale, ce sera positif dans l'économie des ménages qui pourront consommer d'autres choses. Et c'est très vertueux, le fait de rénover son logement. Donc, alors bien sûr, dans tout système vertueux, il y a des gens qui sont pas vertueux, qui essaient d'en profiter parce qu'ils ont bien compris que ça pouvait en profiter. Mais malgré tout, et là, le logement reste la priorité numéro un des Français. Quand même. Donc,
bien
ça,
sûr,
faut le rappeler
bien sûr.
Aussi.
C'est un Très bien. Merci beaucoup pour cette vue globale de MaPrimeRénov'. Je crois que c'est important d'y revenir. Je propose qu'on fasse une pause et puis on reprend cet entretien dans quelques minutes. À tout de suite.
Sous des égouts de faux semblants, j'ai cru que d'autres pas de danse me cacheraient aux yeux des gens. Je n'ai jamais suivi vos routes, j'ai voulu tracer mon chemin. Pour aller plus haut, aller plus haut, où l'on oublie ses souvenirs. Aller plus haut, aller plus haut, c'est rapprocher de je vivais. Je n'ai pas su te dire je t'aime, ou seulement te garder. Il faut aussi dire ce doute, elle le posait dans d'autres mains.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
C'est l'économie en direct avec notre spéciale Fédération française du bâtiment du Val d'Oise ce matin en compagnie de Sébastien Ramé, président de cette fédération, et William Vinant, son délégué général. William et Sébastien, dans le prolongement de la prime Rénov, peut-être un mot sur les bailleurs privés?
Oui, Jacqueline, en effet, lors de l'échange que Olivier Salleron a eu avec le ministre de l'économie sur ce carton rouge qu'il a mis vis-à-vis de MaPrimeRénov, il y a toujours un combat pareil sur la stabilité qu'on demande vis-à-vis des investissements qui peuvent être dirigés vers le bâtiment. C'est vraiment ce statut du bailleur privé qu'on demande ardemment, c'est-à-dire c'est inscrire dans le marbre un statut pour des investissements qui seront faits dans le logement locatif. Alors ils ont eu des noms, voilà, pareil, on va pas compter le nombre de réformes qu'il y a eu là-dessus, mais c'était les lois Cellier qui sont devenues les lois Duflot, qui sont devenues les lois Pinel. Enfin, ça fait 20 ans que tous les ans, en loi de finances, justement, il y a ces adaptations qui existent vis-à-vis du statut de l'investissement privé, vis-à-vis du logement. Et c'est vrai que ce qu'on souhaiterait, nous, vraiment, c'est pareil, pour respecter ce temps long, c'est qu'aujourd'hui, les règles soient inscrites dans le marbre et que ce soit pas vraiment une variable d'ajustement de budget pour ramener à zéro ou pour trouver des fonds par rapport à ça. Et c'est vrai que dans la dernière loi de finances, en effet, donc le Pinel n'existe plus aujourd'hui. Donc il n'y a plus aucun système aujourd'hui qui vous permet, si vous avez un peu d'argent et que vous souhaitez investir dans la pierre, d'avoir ce qu'on appelle une défiscalisation. Mais c'est pareil, on appelle ça une niche fiscale, mais c'est pas une niche fiscale, c'est pareil. C'est aujourd'hui, quand vous avez un peu d'argent, bah, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez l'investir sur les marchés, vous pouvez l'investir sur des bitcoins, vous pouvez l'investir sur de sur de l'assurance vie, sur des choses comme ça, et qui sont des choses qui vous amènent un certain taux de rentabilité avec une certaine aussi sécurité. Vous pouvez aussi l'investir dans la pierre, et beaucoup de gens aiment ce type d'investissement parce que ça semble sécurisé, sauf qu'aujourd'hui, bah, vous n'êtes pas sûr du taux de rendement, du taux de fiscalité sur lequel vous allez être amené. Nous, on pense que c'est le meilleur source d'investissement qui existe parce que vous n'êtes pas sur les marchés, vous n'êtes pas sur la volatilité du marché, vous n'êtes pas sur des choses. Puis vous êtes en France, c'est-à-dire que vous allez investir sur les marchés américains, c'est de l'argent qui part vers les États-Unis. Vous allez investir sur des marchés asiatiques, c'est de l'argent qui part vers l'Asie. Là, vous investissez sur de la construction en France pour du logement, c'est de l'investissement français. Ça fait travailler des entreprises françaises, ça loge des gens en France, ça touche des loyers français. Oui. Donc tout ça, c'est encore bénéfique pour le système justement voilà de l'économie française. Et c'est de l'investissement qui reste en France. Alors, on va dire que c'est une niche fiscale pour des riches qui ont les moyens d'investir. Ça peut être vu comme ça, mais c'est important que les gens qui ont cette capacité d'investir, qu'ils soient riches, pas riches, c'est pas ça, là on est sur un jugement de valeur. Mmh. C'est important que ces investissements soient dirigés vers le marché français, qu'ils soient voilà, de la pierre ou d'autres, mais en tout cas que ça reste chez nous. Et dans le système, en effet, du bailleur privé, c'est des investissements qui sont faits sur le sol français. Donc on pense qu'en effet, c'est bien qu'il faut appuyer sur ce point-là. Aujourd'hui, on est entendu, c'est pareil. Alors, il y a rien de sorti. On travaille vraiment d'arrache-pied là-dessus, mais on voudrait vraiment sortir pour la fin de l'année, peut-être. Voilà, un statut du bailleur privé inscrit dans le marbre qui permettrait à quelqu'un qui dit moi, je souhaite investir dans la pierre, donc je vais utiliser ce statut de bailleur privé pour construire, faire construire, investir et mettre en location des logements qui pourront permettre de faire un petit complément de revenus. C'est vrai que là-dessus, c'est de la mobilisation de fonds qui permettent en effet d'enrichir des gens qui ont déjà un peu d'argent, mais que font tous les systèmes financiers dans lesquels nous sommes aujourd'hui, qui sont le système de marché dans lequel nous vivons tous
et qui aujourd'hui engendre de la consommation. Hein.
Mais voilà, qui le système mondialisé dans lequel on est. Mais c'est vrai qu'on peut investir. Je vous dis, vous pouvez investir dans la crypto-monnaie. Vous savez pas où ça va en tout cas. Et la crypto-monnaie, c'est une valeur qui vous fait gagner de l'argent aussi, qui peut vous en faire perdre aussi. Attention, vous avez la même chose dans l'investissement locatif de la pierre. Vous êtes sur des marchés, le marché du logement peut être haussier, peut être baissier aussi. Donc la garantie de rentabilité n'est pas assurée là-dessus. Mais par contre, c'est plutôt du temps long et c'est plutôt justement des rendements assez sécurisés. C'est pareil, ce qui vous fait gagner 200% en 6 mois prouve bien que c'est pas assis sur une valeur réelle et que c'est une bulle spéculative. Des choses qui vous font des taux de rendement de 3-4% par an et qui, si vous les gardez sur 20 ans, finalement, ça fait quand même une progression de valeur assez importante. On est plutôt sur ce type d'investissement-là.
Donc, une affaire à suivre, ce statut des bailleurs privés.
Juste rajouter pour la problématique du statut du bailleur privé. C'est vrai que c'est pas forcément ce que recherche aujourd'hui, parce que dans le gouvernement et au sein de l'État français, vous avez deux entités, vous avez les élus, donc ou les ministres, on va dire, voilà, et vous avez les permanents qui sont dans les ministères, notamment au ministère des Finances. Et le statut de bailleur privé, il est pas toujours très bien vu, parce qu'un statut de bailleur privé, c'est un statut inscrit effectivement dans le marbre, et c'est un statut que vous ne pouvez pas réformer avec une loi de finances, que vous réformez en fonction des budgets, bons ou mauvais. Donc inscrire dans le marbre quelque chose, c'est forcément un peu, on va dire, sclérosant dans la suite. Et donc, les fonctionnaires de certains ministères n'y sont pas super favorables. Parce que forcément, quand c'est inscrit dans l'arbre, on ne peut plus faire comme on veut.
Et qu'une loi de finances,
typiquement MaPrimeRénov', on vous dit, eh ben non, c'est plus 50, c'est 25. Avec un statut inscrit dans le marbre, eh ben non, vous êtes obligé de vous y conformer sur la durée du statut qui a été voté, sinon il faut le réformer. Et ça, c'est complètement différent.
Donc on va d'autant plus suivre votre action pour ce statut du bailleur privé.
On en parle depuis de nombreuses années. Hein.
Bon. Merci William et Sébastien pour cet éclairage. Oui, pardon, je trouve pas mes mots sur les bailleurs privés. Alors maintenant, peut-être parler donc de la micro-entreprise et de l'artisanat. Il y a des dispositifs qui sont mis en place par la Fédération française du bâtiment pour soutenir ces micro-entreprises dans le secteur du bâtiment.
Alors oui. On va revenir même à la genèse en fait de ce système. Quand le statut de micro-entrepreneur a été créé, on a tout de suite émis des réserves et on était plutôt contre ce statut, sachant que pour nous, en effet, il venait directement concurrencer le monde artisanal qui sont la majorité nos adhérents et qui en plus ne peut pas être artisan qui veut. On demande à avoir des diplômes pour être un artisan du bâtiment. Donc que ce soit un CAP ou vraiment un certificat professionnel qui vous prouve de votre capacité à faire des travaux, quelle que soit la technicité que vous exercez, là où le statut d'auto-entrepreneur ne demandait pas cette qualification pour effectuer les travaux chez soi. Donc là-dessus, on a toujours eu beaucoup de réserves et le contre-argument qu'on nous a présenté à ce moment-là, quand on était sur un chômage qui était en hausse, c'était mais vous refusez l'entrepreneuriat aux jeunes qui veulent se lancer. Et donc en effet, on avait bien compris qu'il y avait une nécessité aussi à inciter les jeunes à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et c'est vrai que c'est plutôt là-dessus ouverture, on était plutôt d'accord. Donc on a toujours voulu dire oui mais, et le oui mais c'était l'inscrire dans le temps et dans les montants. Le temps, c'est-à-dire que c'est un statut qui, pour nous, doit être temporaire, c'est-à-dire que c'est vraiment une aide au lancement d'une activité. Ça peut être une aide sur un complément de revenu qui peut devenir après votre revenu principal, mais c'est vraiment quelque chose qui est temporaire, le temps de comprendre comment fonctionne le système, le temps justement de créer les réserves suffisantes, le temps de lancer complètement une activité, de créer son propre marché. Donc c'est vrai que là-dessus, cette inscription dans le temps, elle n'existe pas aujourd'hui. Vous pouvez rester auto-entrepreneur le temps de votre vie entière. Mmh. Et il y avait le deuxième chose qui était en effet, c'était restreindre en effet les montants, que ce soit de chiffre d'affaires, de revenus, parce que justement, que ça reste quand même une activité qui ne vous permet pas forcément de vivre complètement pour ne pas l'inscrire dans le marbre et que vous souhaitiez y rester sur le temps long. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ça? Vous créez une distorsion de concurrence entre des auto-entrepreneurs qui sont affranchis de TVA, qui ne payent pas de charges sociales et qui font des travaux, à côté d'artisans qui payent la TVA, qui payent leurs charges sociales et qui font les mêmes types de travaux. Et à ce moment-là, bah forcément, le prix qui est proposé aux clients n'est pas le même. Et à ce moment-là, bah vous avez forcément, naturellement, vis-à-vis d'une économie de marché, bah les gens vont aller vers les gens qui sont les plus économiquement intéressants. Et les économiquement les plus intéressants, ce sont les auto-entrepreneurs. Mmh. Donc là-dessus, alors il y avait deux voies hein, qu'on avait, c'est-à-dire que, ou alors, même si on n'est pas d'accord, c'est-à-dire, ok, dans ce cas-là, pour plus de franchise de TVA, plus de dans le temps, mais c'est-à-dire que tout le monde entrepreneurial et tout le monde artisanal
est
logé à la même enseigne, donc ne paye pas de TVA. Et là, la question se pose, c'est-à-dire comment on finance notre système social. Il faut savoir que les cotisations des artisans, elles sont énormes dans nos retraites, dans nos caisses d'assurance maladie, dans nos assurances chômage. Ils participent aussi à ce financement-là. Et donc c'est là où c'est assez bien parce qu'on a l'écoute de l'ensemble de l'éventail politique, c'est-à-dire que les gens qui sont plutôt en effet de gauche sont assez sensibles au fait du financement quand même de notre système social. Et donc en effet, ils veulent aussi en effet continuer à faire perdurer ce système-là. Donc il faut en effet qu'il y ait des cotisations, donc il faut que l'assiette soit la plus large possible. Il ne faut pas que les auto-entrepreneurs prennent une trop grande importance. Mmh. Et le monde de droite qui est très sur l'économie aussi est très sensible à cette économie de marché où la concurrence doit être respectée et qu'il n'y ait pas de faille. Voilà. Donc finalement, on est tous un peu d'accord pour vraiment le restreindre. Mmh. Voilà. Après, c'est une question de montant. Voilà. Il y a aussi des lobbies derrière qui sont là pour forcer justement à instaurer le statut.
On l'a vu quand il y a eu cette annonce la
baisse. Bien sûr, il y a des gens qui profitent de ce système-là et qui disent non, mais moi j'ai envie de continuer à en profiter et de ne pas payer ces charges-là là-dessus. C'est entendable à titre individuel. Après, c'est à titre collectif comment on s'inscrit aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit et comment on veut y participer. Donc le débat, en tout cas, doit être contradictoire et doit être entendu. Mais faut enlever le côté politique de cette chose-là et de savoir vraiment comment on veut financer notre système social et comment on veut que la société française fonctionne. Donc ces règles qui s'imposent à tous ou à la grande majorité, il faut que s'il y ait des exceptions, elles soient temporaires et contenues dans les montants. On nous a dit que ça allait ramener du travail au noir, ça allait ramener... Non, il y a toujours des effets de seuil, que le seuil soit à 25 000, 50 000... ou 80 000, vous verrez, il y aura toujours des gens qui déclareront juste en dessous et qui feront le reste. Voilà. Donc le but du jeu, c'est de le restreindre au maximum pour que cette capacité justement à faire du travail de manière plus ou moins légale soit le plus restreint possible.
Bien sûr, bien sûr.
Juste William, pour préciser ce que dit Sébastien, je me souviens lorsqu'on a introduit ce statut dans le monde économique, on va dire, on nous a demandé effectivement dans nos fédérations respectives d'en parler dans nos conseils d'administration. Et dans nos conseils d'administration, pour certains, c'était une levée de bouclier en disant c'est pas normal qu'on fasse rentrer des gens qui ne payent pas, en fait. Mm-hmm. Qui ne payent pas leurs charges sociales. Effectivement, le principe de l'entrepreneuriat et de l'économie, c'est que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Sinon, ça fonctionne pas. Donc, malgré tout, au sein de notre fédération en Val d'Oise, on a accepté de prendre à l'époque des auto-entrepreneurs. Ce qui n'a pas été le cas dans toutes les fédérations du bâtiment au niveau national. Oui. Certains départements ont refusé ce statut.
Oui, carrément.
Là où, je me souviens d'un endroit, en Lozère, ils ont refusé, parce qu'en Lozère, il y a beaucoup d'artisans, parce que la territoire est plus petite, ils ont refusé l'auto-entrepreneuriat. Mmh. Ils ont dit, on ne prendra pas de statut d'auto-entrepreneur.
Ouais.
Dans notre fédération, c'était voté à l'unanimité au conseil d'administration. Donc voilà, nous, ça s'est fait. Par contre, on a mis, la fédération nationale nous a dit, OK, vous y allez, mais on met en place certaines exigences. Qui sont concomitantes, excusez Sébastien. Une assurance décennale, dès lors où il y a nécessité d'assurance décennale pour les travaux qu'ils vont réaliser, donc par exemple la maçonnerie, les travaux de toiture ou autre, je prends les plus simples. En tout cas, des assurances adaptées à leur activité. Un compte bancaire séparé de l'activité pro-perso.
Oui.
Un engagement à passer sous 3 ans sous la forme d'un statut autre que la micro-entreprise désormais, passer sous statut URL, SARL, ou ce que vous voulez. Et enfin, d'avoir une activité, dans le cadre de son activité auto-entrepreneur, différente de celle de son activité salariée. Voilà. Donc ça, c'était en fait les exigences. Pour dire qu'il ne faut pas que ça fasse une concurrence.
Oui.
Parce que quelqu'un qui a 4 salariés, il y en a qui sont en micro-entreprise, et c'est le cas, on a des cas de figure, il se met en arrêt maladie et il va bosser avec sa micro-entreprise pour faire les travaux de plomberie, de maçonnerie, d'électricité. Mmh. Voilà. Quelquefois même, avec le matériel de l'entreprise aussi. Mais ça, faut quand même se le dire. Donc effectivement, ça c'est un... Faut pas avoir peur de le dire, je pense. Mmh. Au contraire, faut expliquer pourquoi, parce que nous,
on est là pour dénoncer,
quand on a mis des éléments de langage sur notre page LinkedIn de notre fédération, on se fait insulter.
Oui.
En fait, il y a des gens qui vous disent, mais vous arrêtez l'entrepreneuriat. Non, justement, on est pro-entrepreneuriat. Oui. Et on estime qu'au bout... dernier point qui était là-dedans et qui était important, c'est si au bout de 3 ans, il n'était pas passé, nous, on le sortait de notre fédération parce qu'on assume notre choix. Voilà, clairement. Donc, et ça n'est pas arrivé. Aujourd'hui, on a 5 autres entrepreneurs à la fédération. Ils sont tous passés sous un autre statut.
D'accord.
Et ce qu'a justement très bien dit Sébastien, c'est comment se finance ce système à terme s'il n'y a plus de charges sociales, parce qu'en fait, le système de la micro, il est uniquement financé au travers...
On se tire une balle dans le pied.
On se tire une balle dans le pied. Et à l'époque, je tiens à le dire, parce que ça a changé depuis, d'autres structures patronales représentant les artisans, en l'occurrence la CAPEB, n'avaient pas la même position que nous sur l'auto-entrepreneur.
Oui.
À aujourd'hui, ils sont exactement sur la même longueur d'onde que nous en disant, non, la micro-entreprise... On arrête dans le temps et on fait effectivement cette modification. Donc, c'est une réalité. Et aujourd'hui, ceux qui veulent continuer à bénéficier des micro-entreprises, c'est simplement pour faire du black. Soyons très clairs, du travail au noir. Voilà. C'est important de le dire. C'est pas contre l'entrepreneuriat, non. C'est un accompagnement, mais dans le temps. Et après, on passe quelque chose de vertueux.
Et non, mais moi je trouve que c'est une excellente initiative que vous avez eue de comme ça de fixer dans le temps une durée, parce que c'est aussi votre rôle de défendre vos adhérents. Donc voilà, vous êtes complètement partie prenante, hein. Bien sûr, bien sûr.
Et on a encore plus de légitimité à le faire puisque nous ne sommes financés, je le rappelle toujours,
que par vos adhérents,
que par les cotisations.
Ouais, ouais,
voilà,
ouais.
On ne touche pas le fameux fonds de péréquation pour le financement des organisations syndicales que d'autres touchent, patronales comme salariés. Nous refusons de le toucher à la Fédération du bâtiment, le fameux 0,15.
Ça vous donne une
donc ça nous donne une totale
liberté
sur le sujet. Nous ne sommes pas financés par le 0,15 qui est à la base une taxe pour financer le dialogue social dans les entreprises, tant pour le monde patronal que pour le monde salarié. On se refuse à le toucher.
Merci pour ces précisions sur la micro-entreprise et l'artisanat. Alors, dans les sujets que nous avons évoqués, il y a le photovoltaïque, qui lui aussi, c'est un peu les... Il y a des allers-retours comme ça, compliqués, si j'ai bien compris, Sébastien.
Oui, bah c'est, on reprend les mêmes ingrédients et on recommence. A été décidé aujourd'hui, voilà, un moratoire sur le photovoltaïque par l'Assemblée nationale juste dernièrement. Loi qui passe un petit peu rapidement, sur lequel il y a peu de concertation, qui sont le fait, je voudrais pas trop extrapoler par rapport à ça, mais qui sont plutôt des effets d'annonce de certaines personnalités qui veulent peut-être se mettre en avant sur une position un peu dogmatique et qui donnent la lumière à certains élus peut-être qui sont moins connus que d'autres. Et c'est pareil, ça crée une anxiété énorme par rapport à toute une filière, tout un système. Donc le photovoltaïque, on rappelle, c'est de la fabrication de panneaux solaires et surtout la mise en place de panneaux solaires pour créer nous-mêmes notre propre électricité à travers l'énergie solaire. C'est une énergie qui est décarbonée, c'est une énergie dont nous avons besoin, qui fait partie de ce champ des énergies nouvelles qu'on appelle. Alors, on fera pas une centrale nucléaire avec du, on n'aura pas la production d'une centrale nucléaire, pardon, avec du photovoltaïque. Mais par contre, ça fait partie des petites aides sur des grosses industries qui ont des besoins électriques importants. Mettre des panneaux sur les toits, ça fait partie d'un pool énergétique qui peut être en effet envisagé. On en parle d'une obligation vis-à-vis des parkings aujourd'hui de s'équiper de ce genre de produits. Et puis là, on a un arrêt brusque d'une loi qui est passée, hein. C'est-à-dire, mais alors c'est pareil, c'est passé à un moment où il y avait moins de députés dans l'Assemblée sur une partie, voilà. Donc c'est un peu un jeu de politique politicarde où on trouve ça, on trouve ça pas bien. Enfin, c'est, alors ça risque d'être revenu. Enfin, ça risque de pas passer finalement parce que, en effet, on alerte nos députés, on alerte nos sénateurs, tout le monde en prend conscience et se dit, bah non, mais c'est bizarre. Donc ça va revenir, mais c'est encore un combat où on
C'est beaucoup d'énergie pour le coup.
Pour alerter, pour dire que c'est voilà que attention, si vous faites ça, c'est tout ce qui va arriver derrière, ça va être compliqué.
Toutes les conséquences.
Donc la prise de conscience, elle est naturelle chez tout le monde en disant non, mais c'est ok, on va stopper. Mais pendant qu'on fait ça, on fait pas autre chose, on construit pas le monde de demain. Donc c'est vraiment difficile. Attention, la filière photovoltaïque, c'est pareil. Donc c'est, on va dire que c'est nos électriciens, enfin c'est une partie de nos électriciens qui se sont organisés pour se spécialiser dans cette énergie photovoltaïque. C'est particulier, c'est normé. Enfin, on remet tout le souci de formation qu'il y a derrière. Ce sont des travaux qui peuvent être un petit peu dangereux. On est sur des toitures, on est en hauteur, donc c'est tout ça. Il y a toute une formation qui est mise en place. Donc il y a des gens qui se spécialisent là-dedans en disant c'est l'énergie de demain, donc je vais avoir du boulot par rapport à ça, donc dans les 10 prochaines années, je vais devenir un spécialiste du photovoltaïque. Si du jour au lendemain, une décision gouvernementale décide d'arrêter le photovoltaïque, on se retrouve avec des gens qui se sont formés et qui n'ont plus de travail. Donc c'est là où ce genre de décision-là, faut vraiment qu'elle soit mûrie, qu'elle soit étudiée, qu'il y ait un dialogue qui soit fait avec les autorités compétentes pour voir quels sont les impacts de ce type de décision. C'est pas une décision qu'il faut prendre à la légère par rapport à ça, voilà. Ça parlait aussi de l'éolien dans cette loi-là. Attention, l'éolien, c'est beaucoup plus structuré, industriel. Donc, on est contre aussi. Mais nous, le photovoltaïque, c'est des choses qui sont faites par nos artisans, par vraiment des petites boîtes. Vous vous spécialisez, vous êtes capable de mettre 4 panneaux solaires sur la toiture de n'importe quel particulier pour l'aider à avoir un petit peu moins de facture énergétique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important chez nous et qui fait travailler vraiment de très petites entreprises comme des très grandes aussi sur des projets industriels beaucoup plus importants. Mais c'est vraiment voilà quelque chose où on se dit non, enfin faut cette vision là, faut vraiment pas qu'elle existe, faut vraiment qu'on laisse le temps long, qu'on modifie ce statut-là s'il y a des sujets, bien sûr, qu'il faut le regarder, mais on le regarde en concertation, sur le temps long, et avec une analyse des conséquences, surtout, et on prépare, c'est-à-dire qu'on annonce que dans 3 ans, dans 6 ans, on va revenir peut-être là-dessus pour que les gens puissent se préparer et s'organiser.
Éviter les effets d'annonce qui font peur, quoi. C'est toujours le même problème. Et William?
Oui, petite quand même précision aussi sur ce sujet-là. Ce sujet de la filière photovoltaïque, on avait déjà une petite alerte. C'était au mois de mars où un de nos administrateurs, qui est administrateur de la Fédération d'électricité au niveau national, nous avait dit, on a reçu des responsables de haut niveau d'EDF, qui nous disant on est en ce moment quand même c'est quand même délicat de toujours soutenir les filières de photovoltaïque, éolien, c'est pas normal qu'on dise. On sentait bien qu'ils étaient dans une démarche un petit peu de lobbying différent vis-à-vis de l'État sur le photovoltaïque. Et puis, comme par hasard, donc le dit Sébastien, là, le petit coup d'arrêt. Je sais pas s'il faut faire un lien, mais je vais vous donner cet éclairage quand même parce que c'est toujours intéressant d'avoir un éclairage, comme on dit, bien informé.
Oui.
Le député qui a rapporté ça et qui a déposé cet amendement, c'est un député de la Manche. Où je crois qu'il y a une centrale importante là-bas de mémoire, qui produit beaucoup d'électricité, une centrale nucléaire. Et ce député-là, c'est un député, donc c'est une personne qui est élue, c'est un élu de territoire, qui se plaint régulièrement des problématiques d'éolien en mer, de pollution des paysages, mais qui a surtout sur son territoire une énorme centrale nucléaire. Et c'est clair, et aujourd'hui, clairement, Enedis a trop d'énergie, RTE a trop d'énergie, et faut pas hésiter à le dire, les filières autonomes photovoltaïques où le particulier peut produire chez lui,
oui, ça vient
leur apporter du soutien, ouais, ça les intéresse pas beaucoup non plus, parce qu'in fine, le schéma économique est sans doute pas celui qui est attendu à la fin, parce que ils vendent un peu moins d'électricité. Donc, c'est malheureusement... Il y a un jeu à plusieurs bandes, un jeu de billard à plusieurs bandes. Et ce qui, en tout cas, n'est pas bon du tout, c'est qu'une de la filière photovoltaïque en France se structure, a des vrais opérateurs, il y a des agréments. Aujourd'hui, ça répond à une attente, ça répond à une autoconsommation sur certains territoires. Bien sûr qu'on peut remettre en cause l'agri-photovoltaïque sur des champs où, normalement, on est censé produire de la nourriture. Mais pourquoi ne pas mettre, en quoi gêne de la grille photovoltaïque sur des hangars, sur des entrepôts Amazon,
qui par ailleurs
polluent le paysage, parce que les grands entrepôts Amazon de 120 000 mètres carrés aujourd'hui, pourquoi on met pas 120 000 mètres carrés de panneaux solaires pour que le bâtiment soit autonome? Bah ça, c'est une vraie performance, comme ils sont là pour récupérer leurs eaux et ne pas les mettre dans les réseaux pour se recharger les réseaux qui sont à la charge des communes. Non, mais c'est un vrai sujet, tout ça. Donc, voilà, parce que quand effectivement on construit un entrepôt de 120 000 mètres carrés, on artificialise un peu l'espace quand même là, pour le coup, et on peut demander à l'opérateur d'être autonome et de récupérer son eau, de la traiter et de faire en sorte qu'elle fonctionne. Ça existe, hein, ça peut marcher, sauf que ça coûte un peu plus cher et que dans ce cas-là, le coût économique est peut-être moins intéressant pour l'investisseur.
Voilà, mais c'est vrai, Sébastien, que cette politique du mix énergétique français qu'on souhaite avoir entre le nucléaire, le photovoltaïque, l'éolien... C'est pas une histoire de politique, c'est une histoire vraiment de vision long terme, comment on veut être autonome, comment on veut être décarboné, comment on veut, et ça faut vraiment que ce soit sorti du schéma, on va dire, des partis. Faut que ce soit une vision gouvernementale, enfin d'homme d'État, ce que je veux dire, voilà. Nous le mix nucléaire, évidemment que on a besoin, voilà, et on regarde aujourd'hui les allers-retours qu'on a eu sur cette politique nucléaire, enfin les attitudes de nos hommes politiques entre 2010 et 2015.
Qui nous ont fait prendre beaucoup de retard aussi.
Qui nous ont fait prendre énormément de retard sur une, voilà, parce que il y avait des visions qui étaient très fausses sur la pollution. Bien sûr que ça pollue, mais ça pollue sans carbone. Enfin, tout ça, c'est vraiment un choix qu'il faut vraiment sortir du débat public, du débat, on va dire, de comptoir, où c'est vraiment les avis qui sont là. Non, c'est vraiment des études qu'il faut pousser avec des gens vraiment qui réfléchissent assez loin et qu'on le sorte justement d'un débat d'assemblée, voilà, que ce soit vraiment des politiques gouvernementales long terme en disant, oui, le mix énergétique, il nous faut tant d'éolien, il nous faut tant de photovoltaïque, il nous faut tant de nucléaire, il nous faut plus de charbon, voilà. et qu'on soit d'accord, mais que tous les gouvernements qui vont passer
aient
le même langage et qu'on ne revienne pas là-dessus tous les ans ou tous les deux ans parce que on veut verdir une certaine image, on veut redurcir une autre, on veut faire profiter une certaine industrie d'un certain mix énergétique parce que là-dessus, c'est dangereux, comme vous dites, Jacqueline. On a pris du retard dans le début des années 2010 sur ce développement nucléaire, alors qu'on était les leaders mondiaux de cette énergie-là, qui est une énergie complètement décarbonée. Donc il faut continuer à pousser. Hein. Je rebondis sur ce que dit William, je pense qu'il a raison là-dessus, sur ce qu'il nous dit, mais ça reste pas pour ça, il faut pas arrêter le nucléaire
non
plus.
Je pense qu'on
est tous capables de travailler, et si on a trop d'énergie, on sait aussi en vendre à nos collègues européens qui peuvent en avoir, qui peuvent en manquer eux, et qui peuvent avoir une énergie qui est plutôt moins propre, avec du charbon, avec du gaz, avec de l'énergie fossile. On peut être capable aussi de leur en fournir dans ce cas-là, si nous on est pour une fois, on fera de l'exportation et ça sera bien dans notre balance commerciale.
Oui, c'est ça. Le PIB s'emportera mieux. Donc là, c'est un sujet d'actualité pour votre fédération qui monte au créneau pour le photovoltaïque. Donc encore une affaire à suivre, j'imagine.
Encore une affaire à suivre. Alors, on pense franchement que ça va retomber comme un soufflet, mais c'est faut être sur le qui vive.
Faut pas lâcher la pression.
Faut pas lâcher. Faut regarder. Faut être très présent. Ça prend de l'énergie à beaucoup de gens pour, je vous dis, des effets d'annonce qui pour moi ne sont pas. Voilà, le travail de nous tous, il doit être ailleurs. Il doit
c'est
être
ça.
Vraiment.
Ouais, ouais, c'est...
Voilà. Il faut pas qu'on perde de l'énergie là-dessus, mais y compris ceux qui lancent ce type d'alerte. Hein. Je pense que le travail d'aujourd'hui de nos députés, c'est vraiment de travailler sur le long terme pour les populations, mais avec des visions vraiment très constructives pour leur territoire, mais avec justement cette vision d'homme d'État,
global,
enfin d'homme de territoire,
ouais.
parce que quel que soit l'échelon, pour vraiment que ça construise l'avenir et le monde de demain, et qu'on ne soit pas sur des débats stériles. Dogmatique et vraiment pour se faire élire ou ne pas se faire élire.
Merci à tous les deux. Je propose qu'on fasse une nouvelle pause et puis on va parler des rubans du patrimoine et de la sécurité routière pour les artisans dans les prochaines minutes. À tout de suite.
Comme tous les jours, j'ouvre les yeux, sauf que ce matin, je vais mieux. Bien sûr que c'est encore douloureux, mais je sens le début d'un feu. D'abord un premier pas, d'abord on oublie le pire. D'abord on n'y croit pas, puis on se remet à sourire. Un jour on fait un choix, c'est le choix de s'en sortir. Le monde n'attend que, le monde n'attend que. Le monde n'attend que nous. Comme tous les jours, j'ouvre les yeux cette fois. Je ne les refermerai pas. Des raisons de pleurer, il y en a plein. Mais je les regarde moins. D'abord un premier pas, c'est toujours le plus dur. Pas très beau, pas très droit, qui fait tomber les murs. Si la lumière m'atteint, c'est qu'elle a vu mes fêlures. Le monde n'attend que, le monde n'attend que. Le monde n'attend que nous. C'est fou.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Merci d'être resté avec nous. C'est l'économie en direct sur IDFM Radio. Et ce matin, c'est notre spéciale Fédération française du bâtiment dans le Val d'Oise. Avec à mes côtés Sébastien Ramet, président de la Fédération française du Val d'Oise, Fédération française du bâtiment du Val d'Oise, et William Vinant, son délégué général. On a quand même des bonnes nouvelles hein, ce matin aussi. On va parler des rubans du patrimoine, Sébastien et William. Donc, que représentent ces rubans du patrimoine pour les artisans et les entreprises dans le Val d'Oise?
Oui, alors les rubans du patrimoine, c'est une manifestation que nous faisons tous les ans pour essayer de récompenser les maîtres d'ouvrage publics qui lancent des travaux pour justement rénover ou entretenir leur patrimoine. Donc, il faut candidater pour être lauréat de ce type de récompense. Donc, c'est les maîtres d'ouvrage qui nous déposent un dossier en disant voilà ce qu'on a fait chez nous sur un ouvrage qui a une, faut pas forcément que ce soit bâtiment de France, enfin on va dire oui, classé, mais par contre, faut que ça ait un intérêt architectural ou en tout cas de culture et d'entretien assez important. Et puis bah après il y a des jurys qui décernent des prix, qu'ils soient départementaux, régionaux, nationaux, et là-dessus bah nous après on va remettre ces prix. Alors dire qu'on fait ça aussi avec la Fédération française du bâtiment et la Fondation du patrimoine, on est co-organisateur de ça, donc la Fondation du patrimoine qui participe aussi justement avec nous et dans les jurys pour remettre ces bâtiments. Et nous cette année donc on est très très heureux et très fier aussi de voir que sur notre département en effet on a deux prix, un prix régional qui est à Villiers-le-Bel, donc sur la restauration de l'église Saint-Didier, donc les travaux qui avaient été entrepris par la commune pour rénover en effet cette église. Alors attention, derrière la ville, il y a des subventions, des choses
oui,
comme ça.
Bien enfin, sûr,
des,
oui,
voilà,
oui,
les montants, voilà, c'est des travaux qui ont duré 4 ans. Il y a 4 millions d'euros quand même qui ont été mis là-dessus. Alors derrière, il y a souvent le département qui est partie prenante, il y a la région, il y a le ministère de la Culture souvent qui peut. Mais c'est par contre, ce sont des projets qui sont portés par des communes pour leur patrimoine vraiment local. Et on a un prix départemental aussi sur Gonesse, en effet, qui est la restauration de la gloriette de l'hôtel de ville. Alors, c'est une petite, justement, on va dire, c'est une chose inutile, c'est-à-dire que c'est pas le bâtiment, mais par contre, c'est joli.
C'est joli, oui.
Ça a une dimension culturelle, ça a une dimension historique, ça a aujourd'hui, je crois, plus de 100 ans, cette gloriette-là. Donc, c'est vraiment, et ça a été entretenu, c'est-à-dire qu'on a mis, en effet, en avant des fonds pour restaurer cette partie de bâtiment là-dessus. Donc c'était pareil, là c'est des travaux qui ont duré une petite année, il y avait pour environ 500 000 euros de travaux autour de cette gloriette-là, mais c'est vrai que ça a été mis en avant, donc il y a eu le prix départemental qui a été remis là-dessus. Donc il va falloir qu'on se déplace dans ces deux territoires. Alors en plus on est content parce que c'est l'est du territoire du Val d'Oise qui sur cette dimension culturelle est moins primé, on va dire, de manière traditionnelle que le cœur du Val d'Oise historique qu'on connaît avec nos impressionnistes, nos dimensions de ville royale que peut avoir Pontoise. Là vraiment on est sur l'est du département, donc on veut féliciter ces maîtres d'ouvrage là d'avoir mis en avant ce type de patrimoine. Donc il va falloir qu'on trouve une date pour aller les récompenser.
Effectivement, alors en plus les jurys. Les jurys sont sortis en tout début de semaine. Hein. Donc on le savait, hein, parce que le jury a eu lieu il y a un mois et demi. Mais le temps que tout ça se fasse et qu'en plus ils attribuent les prix des nationaux, puisque le principe, les jurys départementaux se déroulent en général fin mars hein, ou début avril. Et ensuite, il y a dans ces jurys, on identifie les prix départementaux, les prix régionaux. Tous les prix régionaux concourent aux prix nationaux. Et à la fin, il y a que trois élus, puisque la catégorie des rubans du patrimoine, c'est habitation, enfin, ville ou communauté de communes de moins de 3500 habitants. Après, c'est 3500, 20 000, et c'est au-delà de 20 000. Voilà. Donc, ensuite, pendant un petit mois et demi, il y a un jury qui se réunit au niveau national et qui définit dans les différents prix régionaux, lesquels pourraient potentiellement aller vers du national. Cette année, nous n'en avons pas. On en a eu un une fois. Mais cette année, nous n'en avons pas. On a un beau prix régional, par contre.
Donc, et Gonesse, c'est un prix régional ou
oui, c'est un prix régional.
Également, oui.
Voilà, c'est un prix régional. Alors, non. Pardon, Gonesse, c'est un prix départemental.
Départemental.
Donc lui, là, on l'a pas fait monter au régional.
Oui,
voilà, on l'a pas fait du tout monter.
Et
Sébastien a raison de souligner que c'est l'est du département. C'est plutôt un territoire, effectivement, qui n'a pas un patrimoine historique aussi important sans doute que d'autres endroits. Néanmoins, les vieux villages et les vieilles villes de ces territoires sont absolument magnifiques.
Oui.
Et là, pour le coup, à Villiers-le-Bel, il faut vraiment se dire que c'était un choix de la mairie et de son équipe municipale qu'il faut saluer, tout comme celui de Gonesse, parce que est-ce que la rénovation de l'église à Villiers-le-Bel est une priorité pour la ville? Priorité
oui.
au sens économique.
Compte tenu, oui.
Tout ce qu'elle a à faire, les émeutes et
tout ça, je veux dire.
Il y a quand même eu des faits marquants à Villiers-le-Bel ces dernières années. Eh ben, l'équipe municipale et sa mère ont fait ce choix. Et ça, vraiment, c'est ce qui a marqué le jury, puisqu'en plus, la rénovation est vraiment d'une grande qualité. Et maintenir l'histoire dans une commune comme celle de Villiers-le-Bel, on peut lui tirer le chapeau.
Mais son mère Gina, ouais. Elle est vraiment
on voit avec effervescence, ouais, elle a un dynamisme exceptionnel, cette femme. Donc ça, faut le saluer parce qu'il faut avoir le courage de le faire sur ce territoire aussi. Donc en tout cas, oui, il faut vraiment qu'on puisse remettre au plus ce prix avant la fin septembre, puisque en mars 2026, comme tout le monde le sait, il y a les élections locales, municipales, et il faut faire attention au devoir de réserve.
Absolument.
Et effectivement à l'information. Donc on va contacter la commune pour organiser cela et faire ça de la meilleure manière qui soit pour le mettre en avant. Parce qu'un prix régional, on n'en a pas tous les ans. Depuis que je suis à la fédération, donc en 15 ans, on a dû avoir 3 prix régionaux. Donc c'est pas non plus
Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous nous aviez dit l'année dernière. Je me souviens, à la même époque, vous aviez il y avait eu des jolies constructions, des maisons.
Ça n'a rien à voir, c'est le prix du développement durable.
D'accord.
Que l'on mettait en œuvre. Cette année, on n'a pas fait pour d'autres raisons avec donc le CAUE et l'INSFA. Et effectivement, on est sur le patrimoine, on n'est pas sur de la construction neuve de moins de 3 ans. Voilà, c'est deux choses différentes.
Mais effectivement,
l'avantage, en fait, c'est d'avoir les deux niveaux, le patrimoine et la construction neuve. Voilà.
Très bien. Bah, écoutez, merci pour ces belles
annonces.
Mais on vous invitera pour que
vous puissiez effectivement faire une information, parce que c'est vraiment important de garder ce patrimoine. C'est le patrimoine de notre territoire.
Oui, c'est vraiment notre culture et
notre
notre passé, notre futur, hein, absolument.
Voilà.
Merci pour cette annonce.
Et j'en profite, si des maires nous écoutent. La fédération se tient à la disposition des collectivités locales si elles veulent monter un dossier pour la prochaine campagne.
Il n'y a aucun problème là-dessus.
On nous appelle, nos coordonnées sont publiques, vous nous demandez à ce qu'on se déplace, on vient, on regarde, on aide à monter le dossier et on voit si c'est vraiment recevable ou pas, parce que des fois, on dit peut-être mieux attendre parce qu'il y a des tranches différentes, mais il faut surtout pas hésiter à nous contacter parce que c'est, pour la commune, ça coûte absolument rien, ça ne peut rapporter que visibilité et intérêt pour l'élu local de démontrer qu'il a fait des travaux dans sa commune. Et en général, ils sont plutôt satisfaits de ce genre de choses.
Je reçois le maire de Beaumont dans quelques jours.
Qui
a un château et tout, donc je vais lui passer le message.
Pas de problème.
Non, mais il faut dire que ça met aussi en avant, en effet, tout cet effort qui peut être mis et qui peut justifier pourquoi on le fait. Obtenir de telles récompenses, ça fait plaisir à tout le monde. Et c'est vraiment quelque chose qu'on expose.
Oui, oui.
Voilà, ils mettent en effet des
plaques.
Et même,
je dirais même les administrés de la ville, hein, parce qu'ils se sentent partie prenante, hein, forcément.
Partie prenante. Et c'est vraiment une récompense en disant, voilà, on a fait des travaux, mais on les a bien faits.
Oui.
Regardez, ça a été reconnu par nos pairs comme étant justement des travaux d'ampleur et d'intérêt général important pour la communauté.
Alors maintenant, un autre sujet qui est assez important, enfin à mes yeux en tout cas, c'est la sécurité routière pour les artisans. Je crois que vous avez, dans la semaine de l'artisanat, il y a une journée qui a été dédiée à cette sécurité routière. J'ai pu lire en préparant le dossier qu'il y a eu quand même 440 personnes tuées à cause de cette sécurité routière. Donc, en quoi consistait cette journée unique dédiée, Sébastien ?
Alors là, je vais rendre hommage à mon délégué général, qui était une de ses idées.
Oui.
Je veux lui rendre hommage là-dessus, à cette antenne, en effet. Semaine de la sécurité et de l'artisanat, c'est une chose qu'on fait tous les ans. Et se dit quelles sont les actions qu'on peut mener, organiser pour pour justement mettre en avant la sécurité. Alors la sécurité, ça peut être sur les chantiers, ça peut être la semaine de la sécurité.
On parle de la sécurité routière.
Voilà.
Oui.
Et d'accord. On avait décidé là-dessus, sous l'idée de William, de mettre en avant la sécurité routière, qui en fait, on pense qu'il n'y a pas de route dans le bâtiment puisqu'on est sur nos chantiers, mais ce qui est en fait archi faux puisqu'on va sur nos chantiers et on revient chez nous, donc on utilise quand même beaucoup les transports, pas que en commun, et on a tout un système aussi de livraison, donc derrière il y a tous nos fournisseurs ou nos ouvriers qui peuvent aussi aller charger tout ça, donc qui utilisent la route. Donc on avait décidé de mettre en avant la sécurité routière sur cette semaine-là de la sécurité vis-à-vis de nos artisans. Donc on a fait ça au centre Centaure, qui est à Belloy en France, que juste à côté, là-dessus, qui est un centre spécialisé justement de sécurité routière, où on a mis en condition nos artisans sur de la conduite, sur de l'eau, sur de la survitesse, sur des aspects avec des lunettes justement qui nous faisaient imaginer ce que de donner les degrés d'alcool différents ou les degrés aussi de
réalité virtuelle.
Alors pas réalité virtuelle, ce sont des vraies lunettes, mais qui déforment complètement votre réalité là-dessus, et on vous demande de faire des exercices de précision justement sur de marcher sur une ligne de et vous apercevez bien que si vous n'avez pas la vision qui est claire, bah vous rentrez juste dans les murs, et donc voilà, et ça simulait justement soit les effets sous état alcoolique, soit les effets aussi sous état stupéfiant aussi là-dessus. On a eu la gendarmerie qui est venue nous faire une intervention aussi sur la sécurité, la loi, enfin un petit rappel à la loi, mais qui était très pédagogique et très sur un échange qui était vraiment très instructif. Moi j'adore quand on rencontre là-dessus, on a toujours la peur du gendarme, donc les forces de l'ordre, c'est vrai que pour beaucoup de nos artisans ça crée une petite inconfort, puis la personne est en uniforme, donc porte vraiment son rôle, mais par contre dès que la discussion s'instaure, ça devient tout de suite très libre, et il explique très bien ce qui se passe et pourquoi c'est important qu'ils soient là pour le maintien de l'ordre, enfin c'est leur rôle et tout ça, mais on en a besoin d'eux pour maintenir la sécurité sur nos routes et sur nos communautés. Donc c'était une journée, on a eu 80 personnes, c'est ça,
Olivier? Ouais, 80 personnes, et puis à noter, comme tu l'as dit Sébastien, bien entendu la présence de la police, mais aussi celle de Thomas Fourgeot, qui est directeur de cabinet du préfet en charge de la sécurité dans le Val-d'Oise, qui est venu, qui s'est prêté au jeu des lunettes virtuelles, qui s'est prêté au jeu de la conduite sur route mouillée, d'ailleurs dans la même voiture que Sébastien, et ça c'était assez rigolo. Et on a fait ça avec des partenaires de la fédération, partenaires institutionnels comme l'APST, médecine du travail, donc qui eux avaient ces fameuses lunettes virtuelles, ProBTP, les structures aussi comme l'OPPBTP, qui est notre organisme de prévention et de sécurité au travail, mais aussi nos partenaires poids lourds et aménagement de véhicules, parce que la sécurité routière, c'est bien entendu le transport sur nos chantiers, donc avec des camions de livraison, et dans ces cas-là, l'arrimage des charges est tout aussi importante que la bonne conduite au volant. Et la conduite au volant, elle concerne bien entendu les ouvriers, mais elle concerne aussi tous les autres salariés qui vont, juste dans le cadre du domicile travail, se rendre sur le lieu de travail. Et ça concerne l'assistante, le chargé d'affaires, le dirigeant d'entreprise. Et des fois, on passe à 5-10 km/h de plus dans un virage où il y a de la pluie, et on passe pas. C'est là le drame qui arrive. Donc, tout ça, c'était vraiment... Ça s'est fait dans une très bonne état d'esprit et une bonne ambiance.
J'ai vu aussi qu'il y avait une mise en lumière sur les pneus usés,
Les pneus usagés, effectivement, l'entretien des pneus, parce que c'est par cela qu'on est accroché au sol. Donc, on sait aussi que le pneumatique est véritablement une des causes de l'accident. Alors, parfois, il évite d'en faire quand ils sont pas usés. Souvent, quand c'est trop usé, c'est là où l'accident arrive. Ce que je retiendrai vraiment de cette journée, qui était une première, moi, ce qui m'a marqué, c'est, Sébastien l'a dit, la peur du gendarme, la peur de l'uniforme. Alors, on avait la chance d'avoir une personne qui est venue,
avant
très sympathique. Avant de les rencontrer. Et certains m'ont dit, alors, plusieurs d'ailleurs, il y a un dirigeant qui m'a dit, et il y a un salarié qui m'a dit, que je connaissais, ils m'ont dit, oh, qu'est-ce qu'on va s'embêter avec lui, il va nous rabâcher ses chiffres, il nous emmerder et tout. On n'arrivait plus à les sortir de la salle de réunion avec lui. Parce qu'effectivement, quand le gars a dit, voyez, en Val d'Oise, aujourd'hui, c'est 19 morts sur les routes depuis le début de l'année. pour des problèmes de ça, de ça. Et il y en a un qui, dedans, qui, bah, effectivement, connaissent une des personnes décédées, de suite. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, trop de vitesse à un endroit inutile.
À partir du moment où on s'identifie,
et alors, ça. Et alors là, on n'arrivait pas à les sortir. Et je dis, les gars, maintenant, faut qu'on aille faire, on a un petit buffet, sans alcool, bien entendu. Mmh. Faut qu'on y aille parce que sinon, on va décaler les groupes, quoi. Et les gars, vous sortez pas. C'était incroyable. Donc, non, vraiment, à refaire.
Donc, une vraie réussite.
Une vraie réussite. Et puis, je tiens à le dire aussi, l'ensemble des salariés qui ont participé à cette réunion, ça c'est un tout petit peu technique, mais c'est important, et dirigeants ont eu une attestation de présence aux différents ateliers qu'ils peuvent mettre dans leur document obligatoire unique de sécurité dans l'entreprise.
Très bien.
Ce qui met en avant l'engagement de l'entreprise dans ce document. Et vis-à-vis de l'inspection du travail, puisque c'est un document obligatoire, lorsqu'elle présente cela... On va dire que c'est pas des bons points, c'est juste normal, en fait. Oui, mais ça valorise l'engagement du chef d'entreprise. Donc c'était vraiment intéressant. Et bien entendu, on le refera l'an prochain.
Refaire, ouais.
Et de très belles installations au centre Centaure de Bellois. Et on a eu aussi la présence, j'ai oublié de le dire, d'Anthony Arciero en charge des routes.
Ah oui.
Élu en charge des routes au sein du conseil départemental du Val d'Oise. Donc qui est venu nous faire, alors en local parce qu'il est pas très loin, mais aussi en tant que responsable des routes sur le département, il a trouvé ça absolument exceptionnel.
Ah, c'est amusant parce que je l'ai reçu là il y a la semaine dernière.
C'est pour ça, ça m'a fait penser. Je me suis dit, tu l'as vu il y a pas longtemps et voilà, on avait oublié de le citer, mais
il était dans le LinkedIn. Mais c'est vrai qu'on était
bien son sujet. Hein.
On était très fiers de faire un événement bien sûr bâtiment auquel étaient en effet conviés et sont venus. C'est vraiment là-dessus, on invite souvent des gens, mais on a la chance en effet que nos invitations sont souvent vraiment honorées par leur présence. La préfecture, le département, les services, l'inspection du travail, la gendarmerie.
Oui, vous avez une vraie écoute.
À chaque fois qu'on organise un événement, tous les organismes autour de nous répondent présents sur le territoire parce qu'ils estiment qu'il y a un intérêt à le faire et un intérêt toujours à discuter, à échanger, pour vraiment mettre en avant justement l'apprentissage vertueux pour l'ensemble des intervenants. Et je rebondis sur ce que vient de dire William sur la discussion avec notre ami de la gendarmerie, c'était assez impressionnant.
Et juste, on oublie de citer aussi, c'était la semaine des artisans, et on avait notre président Michel Alexeff qui était présent aussi.
Qui est venu
participer et qui a trouvé ça très bien, puisque, comme vous le savez, on a un engagement fort avec l'artisanat en Val d'Oise.
Et qui va peut-être reproduire votre journée sur la sécurité.
Je crois que ça l'a un peu bluffé, effectivement, complètement.
Je crois que l'idée, a germé dans pas mal d'organisations.
J'ai l'impression que même Anthony Arciero a dit, mais ce serait peut-être bien que l'on fasse avec nos agents du service des routes du département.
C'est ça, vous savez.
Parce que c'est très positif en termes d'approche et en termes de mobilisation d'équipe. Voilà.
Vous avez semé une belle idée.
Voilà, l'approche pédagogique du centre Centaure est exceptionnelle aussi. Oui. Et même moi, à titre personnel, je me suis dit, si vis-à-vis de mon entreprise ou même vis-à-vis de mes enfants en bas âge, ce serait bien une fois qu'ils aient appris à conduire, parce que moi j'ai quand même deux enfants qui ont le permis. Donc permis, c'est 20 heures de conduite et on vous dit vous avez le droit d'aller conduire. Qu'ils fassent un stage sur ce type de centre, ça permet vraiment de pousser la voiture au maximum de ses limites et de s'apercevoir qu'en effet, parfois entre le moment où ça décroche et le moment où ça décrochait pas, il suffit de rien qu'on pense qu'on est toujours en contrôle et en fait on ne l'est plus. Et c'est vrai que les centres sont parfaitement sécurisés, donc on vous permet justement de faire pas des bêtises, mais en tout cas des bêtises en toute sécurité, mais de se prendre conscience. Qu'est-ce qu'est l'effet de la vitesse? Qu'est-ce qu'est l'effet justement de la giration? Qu'est-ce qu'est l'effet des freinages d'urgence? Qu'est-ce qui se passe justement quand il y a un objet qui apparaît rapidement? Comment vous êtes justement vis-à-vis de vos réflexes et tout ça? C'est vraiment quelque chose de pédagogique qui est assez impressionnant.
Et point qui est très intéressant, c'est que vous utilisez des véhicules Centaure qui sont mis à disposition, mais vous pouvez aussi, et c'est même fortement recommandé, vous essayez avec votre propre véhicule aussi.
Oui, parce que
et ça, c'est tout l'intérêt, parce que vous pensez que votre véhicule est impeccable, et en fait, ça passe pas aussi bien non plus, même avec des très bons pneus, et que c'est pas si simple que cela. Et avec le Kangoo de l'entreprise ou la petite fourgonnette, on se rend compte de là des fois qu'un chargement, c'est complètement différent.
D'accord.
Et ça, c'est très important. Voilà, on peut
utiliser. Ça me donne envie de les inviter, du coup.
Ah, mais il faut, je voudrais les coordonner, ils sont très sympas.
Volontiers. Bon, l'heure tourne et je voudrais qu'on parle. Vous aviez prévu de nous dire un mot de APESA, hein, et du soutien aux chefs d'entreprise. Donc, je crois qu'il y a eu un changement de, malheureusement, parce que son président, Gérard Mauré, est décédé là cet hiver. Donc, il a fallu élire un nouveau président.
Exactement. Donc, APESA, on va rappeler ce que c'est. Donc, nous, la Fédération française du bâtiment, nous sommes dans les organismes qui ont créé APESA dans le 95. Sont dans les créateurs aussi, vous avez la CCI, la CMA, le MEDEF, la CPME et tous les organismes autour du tribunal que sont l'Ordre des avocats et des mandataires pour justement l'aide à l'entrepreneur en difficulté. Alors, qu'est-ce que c'est qu'APESA ? C'est un système qui développe des sentinelles, c'est-à-dire que des gens qu'on forme dans le tissu économique à détecter chez un chef d'entreprise une faille qui peut amener à un drame. Quand on parle de drame, on parle vraiment de suicide ou de choses comme ça. Et ces sentinelles ont pour but, alors le but du jeu, c'est d'en former le maximum pour que
je crois qu'il faut préciser, Sébastien, quand le chef d'entreprise est en liquidation.
Quoi alors, c'est ça. C'est pour ça que c'est très proche du tribunal de commerce. Oui, oui. C'est parce que justement, où est-ce que sont les entrepreneurs sont le plus en difficulté? C'est souvent à la barre du tribunal de commerce parce qu'ils sont vraiment en difficulté. Mais le système APESA va pas traiter la difficulté de l'entreprise.
Non, c'est ce qu'on
va dire.
Non,
on va vraiment travailler sur le dirigeant. Donc, en effet, les sentinelles, il y en a beaucoup au tribunal parce que c'est eux qui détectent. Mais ne sont pas que des gens du tribunal, ça peut être des gens de la vie de tous les jours qui circulent dans le milieu économique du territoire et qui peuvent détecter des gens en difficulté. Voilà, et quand on lance une alerte, il y a une prise en charge immédiate d'un psychologue diplômé, enfin un vrai psychologue. Donc voilà, APESA rémunère ces psychologues pour s'occuper de ces gens-là sur la santé mentale du dirigeant pour l'apprendre à rebondir là-dessus. Donc, on va pas du tout toucher au problème de l'entreprise, on va pas toucher au problème financier, on va pas toucher tout ça, mais c'est vraiment voilà. Donc nous, c'est quelque chose auquel on croit énormément. On y est depuis toujours, depuis sa création. On rend hommage bien sûr à Gérard Mauri, qui a été une personne importante de ce dispositif, qui l'a vraiment porté. Voilà, il est aujourd'hui parti, et une petite pensée là où il est aujourd'hui de nous regarder. Et c'est toujours très avec beaucoup d'émotion que j'en parle, parce que c'était quand même un ami. Mais aujourd'hui, donc il y a eu un président par intérim qui était Yves Charron, donc qui a assumé ce rôle-là à la déboîté juste après cette mauvaise nouvelle. On a élu un nouveau président à l'unanimité là-dessus, qui est Monsieur Sclafer. Et ce système vraiment
ancien président du tribunal de commerce.
Donc, ce sont toujours des gens proches du tribunal parce que ce sont des gens qui sont quand même plus amenés et qui sont conscients. Enfin, ils ont vraiment cette appétence-là à faire attention aux gens.
Qui ont une légitimité par rapport à ça. Hein.
Ce sont des juges, ce sont des gens qui jugent l'état d'une entreprise et qui prennent des décisions en leur âme et conscience parfois très dures pour l'entreprise, qui sont des fermetures, des liquidations, enfin redressement voire liquidation. Mais par contre, en effet, il n'oublie pas cet aspect humain qui est très important derrière. C'est que derrière une décision qui peut être très dure à vivre à titre personnel pour des personnes, on va essayer de soutenir l'homme ou la femme qui est derrière cette entité. Donc c'est pour ça que c'est important que ce soit ces gens-là qui dirigent cette association. Et nous sommes, nous, en relais de tout ça, parce que des entreprises de bâtiments qui passent au tribunal de commerce, il y en a. Des entrepreneurs qui vont pas bien dans notre secteur, il y en a. Quand le secteur va
pas
très bien,
vous avez eu des exemples, vous?
Alors, on ne dira rien là-dessus, et c'est
je sais que ça reste confidentiel, mais peut-être qu'il y a eu parmi des adhérents de la fédération des gens qui ont
plein, c'est
non, mais
il y en a.
Moi, je peux dire qu'effectivement il y a moins d'un an, j'ai effectivement donné les coordonnées d'un adhérent de la fédération,
Et qui aujourd'hui va bien.
Aujourd'hui, hein,
parce que c'est ça l'important.
Et bon, moi, juste le petit mot solennel que je veux redire là. N'oublions jamais comment APESA s'est créé. C'est suite à un suicide d'un chef d'entreprise du bâtiment dans les Charentes.
Oui.
C'est parti de là, le point de départ. Un gars qui avait des dettes, qui ne voulait pas l'avouer à sa famille, à tout cela, et qui s'est suicidé. C'était un chef d'entreprise adhérent à la fédération du bâtiment là-bas.
Ah,
et
oui,
donc
d'accord.
Marc Bignet, greffier qui était là-bas, a décidé de mettre en place cette association. Et c'est venu de là-bas. Ça s'est donc essaimé. Et aujourd'hui, ça fonctionne de manière très simple. Et là, j'en appelle, s'il y a des artisans, des entrepreneurs entendent ce message, qu'ils le prennent vraiment de la manière la plus simple possible. Si en ce moment, de par des contraintes personnelles, économiques, vous vous retrouvez seul, vous n'êtes pas en capacité à avoir du discernement, vous voyez tout en noir, n'attendez pas le dernier moment, vous allez sur le site d'Apesa, vous avez tous les contacts en Val-d'Oise, et vous appelez.
C'est confidentiel et c'est gratuit
pour vous. Et effectivement, n'allez pas jusqu'à commettre quelque chose d'irréparable pour vous, pour vos proches.
Ouais.
N'hésitez surtout pas, c'est un droit de tirage illimité. Voilà, c'est un peu solennel, mais c'est vraiment l'esprit. Et c'était l'esprit dans lequel ça a été fait. D'ailleurs, je tire mon chapeau aussi à quelqu'un qui a été à la base de la création de ce dispositif avec Gérard, qui est Jean-Louis Aurin, donc ancien président de métier, ancien vice-président de la Fédération du bâtiment. Jean-Louis était un ardent défenseur et un ardent personne qui a mis en œuvre le dispositif en Val-d'Oise. Et il faut le dire, quand ces choses marchent bien, qu'il est utile et qu'il est au soutien des entrepreneurs de tout horizon, hein, que ce soit du bâtiment, l'industrie, du commerce, ce n'est pas exclusif. C'est vraiment pour tout le monde. On ne se sent pas bien, c'est pas une bonne période, on voit du noir. Non, on ne va pas jusqu'au bout, on appelle. Voilà, c'est gratuit.
Parce qu'un chef d'entreprise peut vaciller.
Exactement.
Hein, il faut savoir qu'il n'est jamais seul. Et
ça peut être aussi quelqu'un qu'il connaît bien.
Oui.
Ça peut être une assistante, ça peut être un ami qui voit que le chef d'entreprise va bien. Il appelle Apesa et Apesa sait comment faire pour contacter le chef d'entreprise.
Merci pour ce beau plaidoyer. Voilà, on arrive à la fin de cette émission qui a été très riche. Hein, j'ai trouvé, elles l'ont toutes été, mais j'ai particulièrement, oui. Quelques actualités à nous donner dans les jours à venir ou pas forcément, parce que je sais que vous avez beaucoup d'événements.
Alors, le mois de juin est toujours très compliqué en termes d'activité, de représentation nous concernant. Mais là, on arrive à la fin du mois de juin, donc on est content. L'activité estivale est toujours un petit peu en pause. Nous, on a les chantiers qui vont tourner et ça va être très bien de retourner un peu dans nos entreprises. Non, il y aura beaucoup d'événements, comme d'habitude, à la rentrée nous concernant, pour notre fédération, des événements festifs.
On a quand même un ou deux quand même encore, jusqu'au moins. Parce que non, mais c'est vrai, comme Sébastien le dit, les entrepreneurs au mois de juillet, août, ils ont beaucoup d'activités. D'une part, parce qu'il y a des marchés qui se font qu'à cette période-là, les collèges, les écoles. Ouais. Mais il y a aussi un peu de personnes qui prennent des vacances dans les boîtes, donc ils sont un peu moins dispo.
Et
on le comprend parfaitement. Non, nous par contre, là, c'est dès demain, on accueille un guichet Calibat à la Fédération. Bon, je le dis, cette fois-ci, il n'y a plus de place, et c'est bien normal. Il y a 16 créneaux de réservés d'une demi-heure sur la journée, donc ça ne va pas traîner. Et on a aussi une permanence juridique à destination de nos adhérents. On sera aussi à signaler un nouveau partenaire du Festival d'Auvergne. Et donc, on organise effectivement une session, puisque être présent auprès des festivals locaux et soutenir les initiatives locales, c'est important pour notre fédération, d'être au plus près de notre territoire. Et donc, on est partenaire déjà depuis de nombreuses années du Festival d'Auvergne. Et donc, on sera au concert de clôture le 4 juillet, avec des entrepreneurs du bâtiment, mais pas seulement, des partenaires aussi de notre fédération. Et cette année aussi, on sera aussi au Festival Jazz d'Anguin, puisqu'on était sollicité et on estime que ça peut être aussi... il faut aussi, on n'est pas que dans le Vexin,
on est aussi sur
un autre territoire. Ouais. Et toujours dans l'idée d'être au plus proche des échanges, des contacts locaux, des maîtres d'ouvrage locaux, des élus locaux, des partenaires locaux. Voilà, c'est notre rôle aussi d'être présent à ces moments-là. Mais à la rentrée, beaucoup d'actions. Les coulisses du bâtiment qui auront lieu donc au mois de mi-octobre. Notre traditionnel karting fin septembre, le dernier vendredi de septembre. Et puis des réunions qui vont s'enchaîner sur l'année, ce deuxième semestre, qui seront tournées, je pense, vers tout ce qui est la facturation électronique, l'intelligence artificielle, sur des sujets qui effectivement vont vraiment tomber sur le dos de nos entrepreneurs, notamment la facturation électronique, puisque ça, en 2026, c'est obligatoire. Il faut que les boîtes vraiment aient passé le cap de cette facturation. Un petit peu comme le Corus pour l'époque. Là, on va passer en facturation électronique obligatoire. Et là, ça va être un petit... pour nos artisans entrepreneurs, il faudra les accompagner. Et on sera au soutien.
Alors, est-ce que je peux formuler le vœu que nos rencontres se poursuivent l'année prochaine avec IDFM Radio?
Si vous nous invitez, on viendra toujours avec plaisir.
Ah ben, je vous invite avec grand plaisir. Merci infiniment. Oui, je voudrais. Alors, j'avais un petit mot pour dire que la Fédération française du bâtiment, c'est vraiment dans le cadre d'un organisme professionnel. Elle a pour vocation de rassembler les entrepreneurs de tout corps d'État du bâtiment du Val d'Oise, et vous nous en avez fait une belle démonstration.
Et aujourd'hui, c'est 1280 entreprises adhérentes en Val d'Oise, représentant 12 500 salariés. Nous sommes la première force représentative, tout corps d'État confondu, patronal en Val d'Oise. Et on tient à le dire.
Merci infiniment Sébastien Ramey et William Vinan pour ce dernier échange de la saison, toujours très instructif, sur toute cette vie d'un même secteur d'activité qu'est le bâtiment. Merci à vous.
Merci, je
vous souhaite un bel été, bien évidemment. Voilà, l'économie en direct sur IDFM Radio est terminée. Merci à nos auditrices et auditeurs de nous avoir suivis pendant ces 90 minutes. Merci Nicolas pour la technique. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez-la en replay sur idfm98.fr. Mardi prochain, je vais donner la parole à un conseiller d'Élysée. Alors, ne manquez pas ce rendez-vous. Belle journée et bon week-end. Je vous dis à mardi.